ces tensions enfin, qui ont viré à la violence ont toujours existé. Il faut quand même bien dire que le contexte de lutte contre l'État islamique a en partie, en tout cas dans la couverture qui est faite du conflit irakien, occulté un certain nombre de conflits intercommunautaires qui préexistaient à l'assaut qui a été donné en 2014 par l'État islamique. Et on le voit très clairement à travers ces combats entre Turkmènes chiites et Kurdes dans le nord de l'Irak. Les territoires libérés de l'État islamique donnent lieu à des luttes de pouvoir, à des rivalités entre ces communautés pour le contrôle politique et également parce que la coexistence entre ces communautés était restée très précaire. Et toute la question se pose autour de cela, de la coopération entre ces communautés dans le sens d'une reconstruction d'un ordre politique, d'un ordre sécuritaire dans l'après-État islamique. Et ces combats pointent du doigt la très grande fragilité pour l'heure des arrangements qui sont passés entre les différentes forces qui composent la lutte armée anti-État islamique.
Alors justement, les Turkmènes ont annoncé un cessez-le-feu avec les Kurdes. C'est pas la première fois qu'ils essaient de trouver un terrain d'entente. Est-ce que c'est vraiment une issue à ces tensions ?
La seule issue, quel que soit le contexte, c'est bien entendu des cessez-le-feu locaux entre les forces qui libèrent les territoires. Il faut aussi quand même préciser qu'il y a eu un certain nombre de violences faites contre les populations libérées, à commencer par les Arabes sunnites, qui étaient sous le joug de l'État islamique, mais qui, dans l'après-État islamique, font l'objet d'un certain nombre de représailles de la part des milices chiites, mais aussi de la part des Kurdes. Il y a eu un certain nombre de rapports qui soulignent les destructions d'habitats et les violences faites contre les civils, donc il y a un vrai problème à ce niveau. Du côté kurde, les Kurdes sont toujours dans une logique d'extension de leur région autonome, des territoires qui sont sous leur contrôle, notamment un certain nombre de territoires disputés. Et on le voit, ça ne concerne pas seulement les territoires qui font l'objet de discordes avec les Arabes, ça concerne aussi d'autres communautés, à l'instar des Turkmènes. Et de ce point de vue, il faut quand même dire que c'est là que le gouvernement irakien a une responsabilité, que le Premier ministre Haïdar al-Abadi notamment va ou non prouver sa capacité à créer des ponts de coopération entre ses forces, à stabiliser les zones libérées, à créer des conditions sécuritaires et politiques qui soient favorables à la restauration de la paix. Et on en est encore très loin. C'était toute la question qui se posait déjà, je dirais, avant la définition d'une stratégie contre l'État islamique, la question de quel rapport entre communautés, quels arrangements locaux pour permettre avant tout aux populations civiles de retrouver des conditions de vie à peu près décentes, acceptables. Et malheureusement, ces affrontements pointent du doigt la difficulté qui va se poser à l'Irak concernant ces arrangements qui seront passés au plan local et la reconstruction d'un ordre politique, d'un ordre institutionnel dans ces territoires.
À la fois les Kurdes et les Turkmènes combattent le groupe État islamique, ils ont cet objectif commun et en même temps, impossible de trouver un terrain d'entente avec ces discordes historiques.
Il y a effectivement accord autour de la lutte contre l'État islamique, priorité de cette lutte pour un certain nombre de forces, mais il ne faut pas être angélique dans l'approche qu'on a du conflit et des différentes forces en présence. Chacun joue sa carte de manière très froide, très cynique. Et encore une fois, on a plus de 10 ans de conflits communautaires en Irak qui ressortent à la faveur de cet après-État islamique. Et ça, je pense que malheureusement, c'était un scénario auquel on pouvait s'attendre, dans la mesure où il n'y a jamais eu fondamentalement, au-delà du conflit avec l'État islamique et de la lutte armée livrée de manière commune par ces forces, il n'y a jamais eu vraiment d'entente sur le plan politique quant à ce qui succède à l'État islamique en termes de partage du pouvoir, d'administration des territoires, de restauration des services, etc. Et c'est là que se trouve toute la fragilité des différentes forces engagées dans cette lutte armée, à savoir quelle coopération sur le long terme. Et tout cela n'a jamais été fondamentalement résolu.
Les combats ont lieu à Tuzkurmatu. Est-ce que c'est une zone réellement stratégique ? Pourquoi est-ce que c'est cette zone-là, dans le nord de l'Irak, qui est lieu de division et de tension ?
Le nord de l'Irak est particulièrement mixte sur le plan communautaire. On a une pléiade de conflits essentiellement entre Arabes et Kurdes dans un certain nombre de territoires disputés, notamment dans la province de Ninive, qui est l'une des grandes provinces aux mains de l'État islamique, toujours. Mais ensuite, ce qu'on voit, c'est effectivement qu'on a aussi des querelles qui sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus multiples, à commencer par la question turkmène, dont on parle peu, mais qui se révèle à travers ces combats. Il y a une implosion de la société irakienne qui est en fait très profonde et très ancienne. Rien n'a été réglé à l'issue de l'occupation américaine et dans le cadre de la lutte actuelle contre l'État islamique. Il n'y a pas non plus d'accord avec l'État central qui est complètement dans la capacité d'arbitrer des conflits qui se produisent dans les provinces, dans ces territoires. N'oublions pas non plus le conflit latent, durable, qui oppose Erbil à Bagdad. Les Kurdes ont donc tendance, je dirais, à suivre un peu leur politique propre dans le nord, à avancer leurs cartes de manière très froide, très cynique, sans attendre grand-chose de l'État central. Et puis surtout, on le voit dans une logique qui est finalement tout aussi hégémonique que d'autres. On l'avait vu dans d'autres territoires tout de même, hein, les tensions entre milices chiites, entre tribus sunnites, mais aussi avec un certain nombre d'éléments de l'armée irakienne dans les territoires libérés, on l'avait vu notamment dans la province de Salah ad-Din, ce sont des questions qui vont se poser. Le problème étant que le volet politique ou de négociation de ces arrangements n'a jamais véritablement accompagné la campagne militaire. Et ça, c'est une faute dans la mesure où on aurait dû, à mon avis, au niveau irakien, se pencher très sérieusement sur ce plan politique et engager des négociations beaucoup plus sérieuses. Le problème étant, on a un pourrissement en réalité de la situation depuis maintenant plus d'une décennie et qu'il sera très difficile d'amener ses forces à la table en l'état pour discuter de ces arrangements. Et ça, je crois que c'est quand même le rôle de l'État central qui est dans une logique de réaffirmation de sa compétence, qui est quand même aussi largement à l'origine de la déliquescence des institutions sur le plan local, à commencer par la débandade de l'armée irakienne. Donc quel est le rôle de l'État central et puis après quel arrangement au niveau provincial entre ces différentes communautés qui vont forcément se disputer le pouvoir dans l'après-État islamique. Encore une fois, il n'y a aucune surprise, je crois qu'il faut vraiment dépasser l'actualité et bien comprendre que si on a pu croire à un front uni contre l'État islamique, je dirais tout le monde se trouve depuis des mois en ébullition quant à ce qui viendra après. Et quand je parle d'arrangement politique et arrangement institutionnel, il y a aussi évidemment la question de l'arrangement, des arrangements territoriaux. La question, encore une fois, étant quel État irakien, quelle dévolution des pouvoirs, est-ce qu'on va vers une situation de fédéralisme avancé, est-ce qu'au contraire on va plutôt vers une régionalisation des autonomies étendues dans les provinces, dans les territoires concernés, tout cela n'a jamais été résolu.